Je ne sais pas par quoi commencer. Alors, je ne sais pas si je commence par le message ou si je commence par le reste. Alors, je vais commencer par le reste. Tant pis si je ne prêche pas. Non, mais je vous inquiétez pas. Je vais le faire. J'aimerais quelque chose, vous dire quelque chose. Si. Tu m'entends ? Allô, tu m'entends pas ? Je passe sous un tunnel. Vous priez pour quelque chose de particulier, de bien spécifique. Et Dieu vous dit, arrête de prier. J'ai entendu. Alors maintenant, tu vas commencer à louer. Tu vas commencer à dire, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as exaucé. Et vous allez le voir. Non, non, mais je ne veux rien savoir. C'est votre problème et c'est avec vos pasteurs que vous êtes. Et maintenant, on ne doit pas vous suivre, on doit passer devant et vous devez faire votre bastion et commencer à louer. Seigneur, merci parce que tu as entendu. Amen. J'ai aussi une parole pour l'Église. Hier, quand tu me parlais, que tu m'as montré tous les bâtiments, que tu m'as montré enfin, ce que c'était ici, que c'était un casino, etc., etc., puis ça appartenait à la CGT. Waouh ! Ah, ça m'a fait tilt. Ouais. Bon, ce n'est pas forcément mes copains, mais c'est... Et puis, en priant là-dessus, Dieu me disait ceci. Ce lieu a été un lieu de revendication, où les gens sont venus pour chercher des machins, des revendications salariales, etc., etc. Et Dieu me dit, ce lieu reste un lieu de revendication. Et les gens viendront, pas pour revendiquer, mais pour chercher la paix. Cette église est un phare. Vous êtes en train de travailler, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a une préparation que Dieu est en train de faire, et dans le monde spirituel et sur la terre, afin que effectivement les choses, les gens vont commencer à venir. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir. L'important c'est que vous, vous rayonnez, et que vous incarniez réellement l'évangile. Pas besoin d'aller, hein, comme je disais hier, hein, est-ce que tu as une âme, etc. Non, 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 laissez, et vous allez voir, les choses vont venir. Mais vous, vous devez récemment rester dans l'humilité et dans la communion avec Dieu. Amen. Tu peux venir. Tu as ton épouse dans les rangs, là.
Qu'est-ce que tu as fait, Naïm ?
J'espère que tu repartiras avec le même sourire.
Oui. Non. C'est parce que j'étais en train de me dire que quand vous regardez comme ça, je me dis, il va s'arrêter sur qui ?
Non, c'est quand je priais pour vous et j'avais la vision d'une écluse, une péniche qui rentre dans une écluse et il faut faire les niveaux pour qu'elle puisse passer. Et c'est en fait ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Dieu est en train de mettre le niveau et les portes vont s'ouvrir pour que vous puissiez aller là où Dieu vous veut. Et il va y avoir des grands changements dans votre vie. Quand je dis des grands changements, c'est pas des, hein, c'est pas la bombe atomique, c'est pas Hiroshima. Mais il va y avoir des changements et ça va vous amener là où Dieu veut vous conduire. Et avec aussi toutes les prières que vous avez fait monter vers Dieu. Hein, combien de fois l'un et l'autre, séparément ou peut-être ensemble, hein, j'en sais rien. Ça c'est votre vie et ça ne me regarde pas. T'es d'accord, hein? Combien de fois vous avez dit à Dieu, Dieu, on veut te servir ? Il n'est pas sourd. Hein. Il n'a pas besoin de m'indiquer autant de choses dans les oreilles. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Et maintenant, il a dit, ok, tu veux me servir ? Alors moi, je veux bien que tu... Je vous ai prévu pour ça. Je ne vous ai pas mis ensemble pour rien. Mais on est au niveau, là. Il est en train de faire les niveaux. Hein, pour que... Et la porte de l'écluse, ne la forcez pas. Dieu est un peu suisse, c'est lui qui a inventé la montre. Hein. Il n'arrive jamais à la bourre, il n'arrive jamais à l'avance. Il est toujours dans le timing. Quoi. Donc, laissez faire et continuez. Continuez. Et ce que Dieu vraiment vous demande, c'est d'avoir ensemble beaucoup d'intimité avec lui. Amen. Vous êtes une église formidable. Je ne dis pas ça parce que j'essaie de me placer. Hein. Je vous rassure. Hein. Ce n'est pas du tout mon style. Mais quand je vois la richesse de cette église. Je suis impressionné, quoi. Ouais, je sais que tu me plais. J'ai l'art de mettre les gens à l'aise, je sais. Non, c'est vrai. C'est un couple extraordinaire. C'est super. Et je voudrais vraiment vous encourager ensemble. Continuez à être qui vous êtes. Hein? Ne perdez pas le cap. Ne perdez pas le cap. C'est super, quoi. C'est super. J'aimerais, tout à l'heure, quand la sœur qui a présenté l'offrande, Dieu m'a parlé à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Enfin, de toute façon, que j'aime ou que j'aime pas, vous l'avez dit, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Quoi. Et Dieu me ramenait à quelque chose en me disant, mais dis-leur ça. Alors je vais juste vous donner un bref témoignage qui me concerne, qui m'a concerné. C'était dans les années 1991, j'étais au Togo. J'étais en train d'enseigner dans une base de jeunesse en mission. Et un matin, Dieu m'interpelle avec le psaume 23, les deux premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il rajoute, crois-tu cela? 6h du matin, dans un lit, sous une moustiquaire, où on sait très bien que tous nos amis africains vont prendre soin de vous, je ne vois pas pourquoi je ne le croirais pas. Mais sans me rendre compte de la portée de cette parole que Dieu me donnait. Alors j'étais avec un ami, on enseignait ensemble, il devait rentrer plus tôt en France que moi, et deux jours après on était en train de discuter ensemble, il me dit, tu sais Jean, j'ai prié pour toi ce matin, et Dieu m'a dit deux choses te concernant. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que quand tu allais entrer en France, il allait te mettre au large. Et il m'a donné le psaume 23, les deux premiers versets. J'ai dit, Thierry, je te remercie beaucoup. Quelques jours après, j'ai un de mes fils spirituels qui vient me voir, qui est un Togolais, et il rentre comme une furie dans ma chambre à 7h du matin. Et c'est pas du tout la coutume. Hein. Ils sont beaucoup plus respectueux que ça en général. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il m'a dit, écoute, hier soir je me suis endormi, Dieu m'a réveillé et il m'a dit, prie pour Jean. Alors je me suis mis au pied de mon lit et j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, merci, j'ai bien dormi. Et j'ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il m'a dit deux choses. Que quand tu allais entrer en Europe, il allait te mettre au large. Et il m'a donné le psaume 23, les deux premiers versets. J'ai dit, ok, merci, ça va, c'est bon. Et j'étais à l'aéroport, j'allais partir, et une de mes amies, Ida, qui est aussi togolaise, et qui me dit, je peux pas te laisser partir sans te dire ce que Dieu m'a dit pour toi. Et je dis, vas-y, envoie. Il m'a dit deux choses. Que quand tu allais entrer en France, il allait te mettre au large. Et il m'a donné le psaume 23, les deux premiers versets. Et je suis rentré à la maison après 3 semaines, avec ça dans la tête. Et puis j'ai partagé avec mon épouse en disant, voilà ce qu'on m'a dit. Et j'ai reçu le psaume 23, et puis d'autres me l'ont confirmé. Elle m'a dit, moi aussi chérie, je l'ai reçu. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, d'abord, est-ce que tu m'aimes? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, alors dis-moi. Elle m'a dit, non. Elle m'a dit, tu dois le découvrir. Alors, mais en fait, ce n'est pas le psaume 23 qui me tracassait le plus, c'était le fait que j'allais être mis au large. Et à l'époque, j'étais encore pasteur des églises réformées évangéliques, à mi-temps, et j'étais à mi-temps itinérant. Et alors, tous les matins, j'avais ma boîte aux lettres qui était au fond de l'impasse. Et j'attendais, je pensais que j'allais recevoir la super lettre qui allait faire de moi le super bonhomme, le méga pasteur ou le méga machin. C'était l'invitation qui allait révolutionner mon ministère. Parce que quand j'étais tout gamin, tous les gens, tous les serviteurs de Dieu qui venaient chez mes parents me disaient qu'un jour, je serais plus grand que Billy Graham. Manque de peau, il mesure 1m88, je mesure 1m80. C'est raté, d'emblée. Mais bon, ça, c'était dans ma tête. Et effectivement, j'ai été mis au large. Parce que quand l'Église réformée évangélique a découvert que j'avais une connotation prophétique, on n'est pas raciste pour dessous, mais on ne veut pas de ça chez nous. On m'a dit 82-15, on appelle ça une porte. Bye bye. Et donc, je me suis retrouvé, du jour au lendemain, sans rien. Une femme, alléluia. Comme je rappelle, la plus belle du monde, deux garçons, et rien. Je vais en Belgique, chez mon père spirituel, Et il y a un jeune stagiaire qui vient me voir, il me dit, écoute, je viens de recevoir une parole pour toi, c'est le psaume 23. Les deux premiers versets. Ok. Puis je vais à Barastre, dans un séminaire où j'étais orateur, une jeune femme vient me voir toute tremblante en me disant, je crois frère que j'ai reçu quelque chose pour vous. Alors je l'ai aidée, j'ai dit, c'est peut-être le psaume 23. Elle m'a dit oui. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais il me dit, voilà ce que je veux te dire. C'est qu'à partir de maintenant, tu vas dépendre uniquement de moi. Tu n'as plus de salaire. Tu n'as plus rien. On avait à l'époque, on venait d'acheter une maison, on avait 5200 francs à rembourser tous les mois. Et Dieu me dit, maintenant tu vas dépendre de moi. Et tu ne sortiras que deux fois, que deux week-ends par mois. J'ai dit, Seigneur, moi je ne mange pas à mi-temps, je mange à plein temps. Il m'a dit, ça, ce n'est pas ton problème. Et tu ne feras jamais connaître tes besoins aux hommes. Tu n'enverras jamais de nouvelles avec un CCP en dessous, etc. pour piper un peu les dés. En disant, priez pour que le Seigneur pourvoie. On appelle ça un appel aux finances. C'est un peu indirect, mais c'est quand même une réalité. Alors j'ai dit, ok Seigneur, si tu veux, je vais le faire. Et je me rappelle là, quelques jours après, j'ai dû remplir à l'époque, on n'avait pas les cartes vitales, on remplissait encore les feuilles de maladie, et je les ai remplies avec le numéro de sécurité sociale de ma femme, et là je me suis rendu compte que j'étais plus rien. Je n'étais plus rien. Devant les hommes, j'étais plus rien. Bon, j'avais mes droits civiques, c'est déjà pas mal, mais j'étais plus rien. En fait, je n'existais pas. Bon, ça m'a quand même coûté une bonne journée de déprime, hein, que j'ai pris conscience de ça. Puis j'ai dit, Seigneur, ok, alors on va y aller. Et 8 ans comme ça. On n'a jamais été interdit bancaire, c'est jamais rien passé. Et je peux vous assurer que Dieu a pourvu. Et j'ai appris ce que c'était la dépendance de Dieu. Des fois, je disais à Isabelle, je descends à l'Est, parce qu'on habite à côté d'Alès, je descends à l'Est à acheter un truc. Puis j'arrivais, j'allais au magasin, je prenais mon... parce que j'aime beaucoup bricoler, et à l'époque j'avais du temps. Donc je prenais un truc, j'arrivais à la caisse, je le posais sur le tapis, et le Seigneur me dit, pas maintenant. Alors j'allais le reposer. La caissière me regardait, disant, celui-là, il n'est pas bien dans sa tête, d'avoir une araignée dans le plafond qui travaille. Et puis, 15 jours après, je revenais dans le magasin, et ce que je voulais prendre il y a 15 jours, c'était en promotion. Pour l'un, j'en avais 3. Un jour, je devais faire le plein de ma voiture. Mais j'étais le baron de la bourse plate. Je n'avais pas une thune. Je devais faire le plein. Et Dieu me dit, va faire le plein. Je dis, Seigneur, moi je vais faire le plein, ça c'est facile. Hein. Ça n'engage à rien. Mais après, il faut passer à la caisse. Va faire le plein. Donc je suis arrivé, Carrefour. Plein de ma voiture. À l'époque, elle n'était pas très grosse, il n'y avait pas beaucoup d'essence dedans. Et puis au moment où je vais, bien sûr, une fois que j'ai fait le plein, je dois aller à la caisse. Donc j'arrive à la caisse, comme tout bon citoyen qui se respecte, et tout bon client qui se respecte. Et il y avait un monsieur devant moi, qui était en train de payer son truc. Et à ce moment-là, il y a un billet de 100 francs qui tombe. Alors je le ramasse, je dis au monsieur, excusez-moi, mais je crois que vous avez perdu ça. Elle m'a dit, absolument pas, c'est à vous. Donc j'ai ramassé le billet, puis j'ai payé mon essence. Deux fois, ça m'est arrivé. Et ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand je parlais de ça, au moment où, pendant que je vivais par la foi, les gens me disaient, ah, j'aimerais vivre comme vous, etc. Stop! Si Dieu ne vous le demande pas, surtout ne le faites pas. Sinon, vous allez vous ramasser un mur. Vous allez ressembler à un boxeur, non? Non, ça, il faut oublier, quoi. Enfin, j'ai rien contre les boxeurs. Non, surtout ne faites pas des choses que Dieu ne vous demande pas de faire pour jouer les héros spirituels. Sinon, vous allez vous ramasser des gamelles de première catégorie. Et ce que je veux vous dire aussi à travers ça, c'est que Dieu est linéaire. Nous sommes des hommes et des femmes cloisonnés. Nous avons toujours tendance à voir que là, nous faisons une expérience, on a compris l'expérience, on passe à une autre expérience, etc. Et dans chaque expérience, nous mettons des barrières. Dieu est linéaire. Et je vous assure que ce que j'ai appris dans ma dépendance de Dieu, et j'ai pas vu ça sur le moment, mais ce que j'ai appris dans ma dépendance de Dieu par rapport à l'argent, par rapport à la gestion, je peux dire que j'ai... Ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est la dépendance de Dieu et la gestion. Et aujourd'hui, dans l'entreprise que j'ai la joie de conduire, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas dépendant de Dieu. Et je gère l'entreprise comme Dieu m'a appris de la gérer, c'est-à-dire avec lui. Je vous assure, hein, j'ai quelqu'un de la répression des fraudes qui est venu me voir. Et il a commencé par me dire que tous les chefs d'entreprise trichaient. Je t'ai regardé là. Je lui ai dit, vous pouvez me repasser la bande là? Il m'a dit, oui monsieur, tous les chefs d'entreprise trichent. Je lui ai dit, écoutez, vous avez le choix, la fenêtre ou la porte. Par la porte, ça sera plus simple, ça vous fera moins mal. Parce que j'ai dit, je suis désolé, je ne triche pas. Et je peux vous le prouver. Et j'ai appris la gestion, j'ai appris la dépendance. Dans l'entreprise, il n'y a rien qui est investi sans que Dieu mette son aval. Si Dieu dit non, on arrête. Quand je ne parle pas d'acheter un stylo hein, ou une cartouche d'encre. Hein. Je parle pour les gros investissements, style camion, etc. Si Dieu dit oui, on y va. Si Dieu dit non, on n'y va pas. Sur plein de points. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est douloureux, ne perdez pas de vue que c'est une formation. C'est juste pour aller plus loin. C'est pas seulement un truc, un caprice de Dieu, parce qu'un matin, il s'est levé du pied gauche et il va vous enquiquiner un chouïa, quoi. C'est pas du tout dans ce sens-là. Voyez-le comme une formation. Voyez-le comme un apprentissage à la dépendance de Dieu. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon la richesse de sa grâce. Comme je disais hier, et j'aime le dire, et je le redirai peut-être tout à l'heure encore, de ce côté-ci, nous sommes les plus riches de l'éternité. L'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas un problème pour lui. Et il faut juste que ça ne devienne pas un problème pour nous. Et ça, je vous encourage vraiment simplement à faire connaître vos besoins à Dieu. Et même si vous n'avez pas, si vous avez rien à donner, il y a une veuve qui a donné 4 pites. Ting ! Et Jésus a dit, elle a donné plus que vous tous. Donc, moi je vous laisse ça et je vous encourage aussi avec ça. Amen. Je vous invite à lire dans le premier livre de Samuel, juste 5 versets. Un Samuel 18, les 5 premiers versets. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna aussi ses vêtements, même son épée, son arc, sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Nous sommes en présence de deux personnes, Jonathan et David, et ces deux hommes décident de conclure une alliance. Et pour des Hébreux, conclure une alliance, c'était pas quelque chose qui se faisait par-dessus la jambe, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de Pâques, d'alliance, etc. Et ce sont des choses qui se font des fois un petit peu à la va que je te pousse, et puis on a pas de problème éventuellement pour rompre l'alliance, pour dire ok, on s'en va, etc. Là, les Hébreux, lorsqu'ils décidaient de contracter une alliance, ils savaient que la troisième personne de l'alliance était Dieu lui-même. Et que si l'un d'eux venait à rompre l'alliance, il se mettait sous le jugement de Dieu. Donc ce n'était pas quelque chose qu'on allait faire à la légère. On réfléchissait à ce qu'on allait faire. Et puis, dans ce désir et dans cet acte d'alliance, il y avait, on va dire, tout un cérémoniel. Le premier qui nous est donné là, c'est que Jonathan donne son manteau à David, ce qui signifie à partir d'aujourd'hui, ce qui est à moi est à toi. Et quand tu donnes son arc, son épée et sa ceinture, cela signifiait qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient t'attaquer, nous serons deux pour le combattre. C'est-à-dire que je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et à ce moment-là aussi, il se redisait la chose suivante, que conscient que Dieu était le témoin de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ensuite, ils allaient prendre un animal, mâle, premier-né, sans défaut, qu'ils allaient couper de la tête à la queue. Et vous voyez ça dans Genèse chapitre 15, verset 7 et suivant, quand Dieu a fait alliance avec Abraham. Et ils allaient poser ces deux parties de l'animal, les entrailles vers le ciel, légèrement écartées, et ils allaient dessiner un 8 en marchant à travers ces deux parties d'animal. Et quand ils se retrouvaient face à face, ils se disaient que si l'échange qu'ils avaient était de dire que si on vient à rompre l'alliance que nous avons faite, si l'un de nous vient à rompre cette alliance, qu'il en soit fait à l'un de nous comme on a fait à cet animal. Bonjour l'ambiance. Donc, ce n'était pas de la plaisanterie, quoi. Et à ce moment-là, ils allaient aussi prendre un repas que vous connaissez bien, que l'on retrouve aussi dans Genèse, lorsque le roi de Salem est venu avec Abraham et Melchisédek, hein, le pain et le vin. C'était le repas, et ça reste, ça demeure, le repas de l'Alliance. Et ils allaient chacun se donner un morceau de pain en disant « Ceci est mon corps ». Et comme ce morceau de pain va être ingéré dans ton corps, ma vie passe désormais dans ma vie et la tienne ne font plus qu'un. Et ils allaient boire un verre de vin, je ne sais pas si c'était un verre ou une gorgée, j'en sais rien, en disant « Ceci est mon sang ». Comme ce vin va être ingéré en toi, ma vie est désormais liée à la tienne. Ma vie et la tienne et la mienne ne font plus qu'un. Et il redisait que si l'un de nous vient à rompre l'alliance, qu'il en soit fait comme on a fait à cet animal. Et ensuite, ils allaient échanger, ils allaient se dire tout ce que ce que l'un et l'autre possédaient. Le nombre de yachts, le nombre de marinas, le nombre de villas, le nombre de chalets qu'ils avaient en Suisse, etc., etc. Bien sûr, vous avez compris que c'était des bijoux, des trésors, etc., etc. Et voilà. Et ça, c'était quelque chose de fort. Et ensuite, pour terminer, ils allaient se couper le poignet. Ils allaient faire ça. Ma vie est liée à la tienne désormais. Et ils allaient faire en sorte que cette blessure se voie. Et donc, ils allaient prendre de la cendre. En général, nous, quand on a des cicatrices, on fait en sorte de passer des pommades pour pas que ça se voie. Ils font le contraire. Il fallait que la cicatrice se voie. Parce que la personne qui allait voir la cicatrice savait que cette personne était en alliance avec une autre personne. Elle n'était pas forcément censée de savoir qui c'était. Et donc, ça pouvait aussi la faire reculer si la personne avait envie d'attaquer cette personne, en disant, attends, c'est peut-être un super archer, un super manieur d'épée ou de couteau, c'est peut-être le fils du gouverneur du roi, donc il faut que je me calme, quoi. Donc ça mettait un petit peu de recul, ça cassait un peu l'ambiance, quoi. Mais ça, c'était aussi très important. Et quand David et Jonathan ont vécu cela et ont fait cette alliance, David avait plus de femmes et d'enfants qu'il n'en fallait, mais Jonathan n'était pas encore marié. C'est quelques années plus tard que Jonathan se mariera et aura un fils. Mais en fait, quand ces hommes faisaient alliance, ce n'était pas seulement pour eux, c'était aussi pour leur descendance. Leur descendance bénéficiait de cette alliance. Et la Bible nous dit, dans le deuxième livre de Samuel, qu'un jour, il y a eu, bien sûr, une bataille contre les Philistins, et Saül et Jonathan ont été tués. Et la Bible nous dit aussi qu'à ce moment-là, il y a eu un grand chamboulement dans le palais à Jérusalem, parce que tout le monde savait que David avait été roi à la place de Saül. Et tout le monde avait une trouille pas possible en disant, maintenant qu'ils sont, les deux sont morts, on va voir débouler David, vite fait, bien fait, et il va tous nous expulser ou nous raccourcir pour prendre le trône. Alors tout le monde a fui. Et dans 2 Samuel 4, nous lisons ceci, c'est que, effectivement, Jonathan avait eu un fils qui s'appelait Mephibosheth, et ce garçon avait des problèmes, il était perclus, et en plus, pour arranger le tout, lorsqu'il y a eu la fuite au palais de Jérusalem, sa nourrice qu'il portait s'est encoublée dans le tapis et a aggravé le cas de Mephibosheth. Et Mephibosheth a été apporté, il avait 5 ans à ce moment-là, il a été transporté à Lodebar, au sud. Lodebar, en hébreu, c'est lieu d'aucune pâture, c'est le confin du désert. Et ce fils, premier-né, donc c'était quand même le petit-fils de Saül, donc c'était quand même quelqu'un qui n'était pas n'importe qui, s'est retrouvé à Lodebar à vivre dans une cabane en terre, et bonjour l'ambiance quoi, hein. Comme mes amis africains, quand ils vivent dans des cases avec le sable, etc., ça craque sous la dent. C'est super sympa. Et là, la Bible nous dit que lorsque ceci s'est passé, deux fils de Saül ont partagé le royaume, Hébron et Jérusalem, et ont régné sur chacun sur sa partie. Et là, j'ouvre une parenthèse, il y a quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Quand nous connaissons notre destinée, pas ce que nous sommes, ce que nous sommes appelés à être, je parle de ministère. David savait qui il était. David savait qu'il avait été un roi pour Israël. Et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que cet homme a eu la sagesse d'attendre. Il n'a pas cherché à jouer des coudes. Et quand le premier fils de Saül qui régnait sur Hébron est mort ou a été tué, c'est pareil, qu'il soit mort ou qu'il ait été tué, le résultat est le même, tu pars dans un costard en bois, tu pars les pieds devant, je veux dire, c'est pas un problème ça. Ils sont venus le voir en disant, David, viens régner sur nous. Et David a régné 7 ans à Hébron, alors qu'il savait qu'il devait régner sur tout Israël. Il n'a pas du tout précipité les choses. Et moi je vous exhorte ce matin, si vous savez qui vous êtes, si vous savez le mandat que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure à mon ami, Dieu ne arrive jamais à la bourre, mais jamais à l'avance. Et on n'a pas à forcer les choses. On n'a pas à forcer les choses. Attendre le temps de Dieu. C'est vrai que des fois, on manque de patience. Hein. Alors l'apôtre Jacques nous dit que celui qui manque de patience la demande à Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous faites quand vous demandez la patience. Mais moi, je dis, Seigneur, j'ai besoin de la patience, mais tu me la donnes tout de suite. Ça ira plus vite. Et ce n'est pas comme ça que Dieu nous donne la patience. Et là, David a été un homme très humble. Il a attendu. Et quand le deuxième fils est mort, alors on l'a appelé à régner sur tout Israël. Et pendant ces 14 ans d'attente, David n'a eu qu'une cesse, c'est de savoir si Jonathan avait un fils. Il ne pouvait pas le savoir, parce que pendant ce temps, Saül, son père, faisait la guerre à David, et David devait galoper partout. Donc il n'a pas eu l'information de savoir si Jonathan avait un fils ou pas. Et pendant 14 ans, il a cherché à savoir si Jonathan avait un fils. Et personne osait répondre à David lorsqu'il posait la question est-ce que David a un fils ? Est-ce que Jonathan a un fils ? Personne osait répondre parce qu'en disant il va y faire quoi ? Il va le raccourcir, quoi. Donc on ne va surtout pas répondre. Et au bout de 14 ans, quand même, les gens du palais ont vu que David n'avait pas des intentions belliqueuses. C'était un homme selon le cœur de Dieu, même si il y a eu des travers. Eh oui, connaissez l'histoire, enfin vous connaissez les histoires parce qu'il y en a plusieurs. Et un jour, on appelle Tziba, et Tziba vient auprès de David, et David lui dit, est-ce que tu sais si Jonathan avait un fils? Et Tziba lui répond, oui, Jonathan a un fils qui aujourd'hui doit avoir 19 ans, il habite à Lodebar, dans la maison de Makir. Vous pouvez imaginer la tête de David, un homme qui depuis 14 ans cherche quelque chose et qui enfin trouve ce qu'il cherche. Waouh ! Il a dû avoir un cœur qui s'élargit de... Pas possible, quoi. Et je pense que tout de suite, il a dû courir dans le palais, appeler, donner des ordres en disant « Allez me chercher ce gars là-bas, à Lodebar, chez Makir, vous le trouverez et vous me le ramenez. » Effectivement, ils sont partis à Lodebar le chercher. Et quand Mephibosheth, qui devait être... Ça, c'est mon imagination. Vous vous êtes rendu compte, elle est très fertile. Qui était là, devant la fenêtre de sa case. Et quand il a vu ce sable commencer à bouger, il a décidé encore une tempête de sable. Et puis, de plus en plus, il s'est rendu compte que c'était des cavaliers, des chars. Pas bon. Et comme je dis, avec beaucoup d'humour, je pense qu'à ce moment-là... Mephibosheth était en train de regarder l'émission les 5 dernières minutes. Et quand les hommes de David sont venus dans sa maison pour le prendre, effectivement, il a dit, Seigneur, c'est le temps d'un voyage, quoi. Hein. Parce qu'il était sûr, je suis persuadé que cet homme était sûr dans sa tête, que si, quand il a demandé où m'amener, c'est David qui veut te voir, et il se dit, comme Louis XVI, hein, j'en perds la tête, hein. Il était sûr qu'il allait mourir. Et les gardes avertissent David que l'estafette qu'il avait envoyée est en train de revenir. Et David est en haut du palais de Jérusalem. Et le char qui portait Mephibosheth s'arrête. Et pour la première fois, David voit le fils de Jonathan. Et Mephibosheth lui dit à ce moment-là, que je sois comme un chien mort. C'est la pire des malédictions pour un Hébreu. C'est-à-dire, fais de moi ce que tu veux, tu peux me jeter sur le tas de fumier. Parce que tout simplement, Mephibosheth attendait sa mort. Il était sûr qu'il allait mourir. Et David, que lui dit David à ce moment-là? Mephibosheth, enfin je t'ai trouvé. Oui, d'accord, tu m'as trouvé, mais enfin, c'est bon. Je t'ai trouvé et je vais te rendre tout ce qui appartenait à ton père et à ton grand-père. Là, je pense que Mephibosheth, il a dû sortir des cotons-tiges de sa poche en disant, attends, j'ai bien entendu ce qu'il m'a dit là. Où il y a des interférences sur la ligne, quoi. Il me dit qu'il va me rendre tout ce que mon père avait, tout ce que mon grand-père avait. Et il va me donner encore plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Il ne comprenait pas. Et il a découvert qu'en fait, il était le fils d'une alliance. Et qu'on ne pouvait pas le toucher. Et que dans le contrat d'alliance, c'était... juste qu'on lui restitue tout ce qui avait appartenu à ses ascendants. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a dû rencontrer un de ces marchands de tapis, là, qu'il avait dû rencontrer déjà à Lodebar, et avec qui il buvait le thé à la menthe le soir au feu de bois, là, autour du feu. Et combien de fois Mephibosheth a dû dire à ce marchand de tapis, si un jour je me chope David, je me le raccourcis, je me le coupe en pièces, quoi. Je supporte pas ce mec. Il m'a tout volé. Et je pense qu'un jour, il a dû le rencontrer dans le dédale du château, là, du palais. Et le marchand de tapis lui dire, ben alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que j'aille dire à David ce que tu disais de lui quand on était à Lodebar? Et Mephibosheth de lui répondre, va demander à David ce que ça veut dire, la cicatrice qu'il a sur son poignet. Je suis le fils d'une alliance. Et je suis intouchable. pas de bras, pas de chocolat. Je suis le fils, je suis le fils d'une alliance. Tu peux pas me toucher et tu ne peux rien dire. Et la preuve, c'est que David avait conclu une alliance avec les Gabaonites. Bien avant. Saül a rompu l'alliance. Et un jour, les Gabaonites sont venus auprès de David en disant, voilà, Saül a rompu l'alliance, donc tu dois nous donner les fils de Saül parce que nous devions les tuer. Et David a dit, ok, je vais vous en donner deux. Parce qu'il en restait trois. Je peux vous en donner deux. Mais le troisième, non, c'est le fils d'une alliance. Non, celui-là, vous ne le toucherez pas. Il est à moi. Voilà. Ça, c'est la portée de l'alliance dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais il y a une alliance dans le Nouveau Testament. Puisque Jésus a parlé de la nouvelle alliance. Et que lorsque Jésus a parlé de la nouvelle alliance, la première chose qu'il a fait dans ce pacte d'alliance, c'est de prendre le repas, ce que nous appelons ici la Sainte Cène. Mais la Sainte Cène est le repas de l'alliance. Et c'est impressionnant parce que si vous savez comment les choses se sont passées, il y avait donc ses disciples qui étaient là, et Jésus a pris du pain, et sur la table de la Pâque, il y avait un sac à trois poches, un sac en lin de trois poches, qui contenait chacun un morceau de pain. Abraham, Isaac, Jacob. Père, Fils, Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il a pris du pain, il a pris le pain dans la poche Fils. Et il a dit, ceci est mon corps. Et il n'y a pas un de ses disciples qui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu marches à côté de tes pompes, quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il savait qu'il se passait quelque chose de fort. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit, ceci est mon corps? C'était le corps du sacrifice, mais le corps de l'alliance. Jésus était en train de faire alliance avec nous. Et quand il a pris la coupe, c'est pas une coupe, c'est la coupe messianique qui était sur la table de la Pâque, hein, où les Juifs attendaient qu'un jour le Messie vienne prendre cette coupe, et il a dit, ceci est mon sang. C'était pas neutre. C'est le sang de l'alliance. Voilà. Et le terme en hébreu et en hébreu, qui parle de l'alliance entre Jésus et nous, hein, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, où Dieu dit « je ferai une alliance nouvelle avec vous », c'est en fait le plus riche qui fait une alliance avec le plus pauvre. Le plus riche qui a tout à donner, le plus pauvre qui n'a rien à donner, mais qui va tout recevoir. Ça va? Ça vous parle? Nous sommes. Et cette alliance que Jésus a faite, ce n'était pas comme l'alliance de David et Jonathan, ce n'est pas une alliance juste qui se portait sur la génération qui suivait. C'est une alliance éternelle qui se porte sur chacun d'entre nous et sur toute notre descendance, j'oserais dire jusqu'à la millième génération. Excusez-moi. T'inquiète pas, il a fait la guerre, comme moi. C'est pas grave. Et c'est ce que nous devons saisir. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les filles et les fils d'une alliance éternelle. Tout ce qui est à lui est à moi. Tout ce qui est à lui est à vous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et je sais que je l'ai dit hier soir, malgré mon grand âge, j'ai encore un peu de mémoire, que nous sommes les gens les plus riches de ce côté-ci de l'éternité. Parce que tout ce qui est à lui est à... Il nous a tout donné. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes à Christ et que Christ est à Dieu. Et bien souvent, quand nous voyons ces choses, nous les voyons en perspective comme si nous les voyions pour le ciel, hein, au ciel. Et la terre, qu'est-ce qu'on en fait? Cette alliance, elle est pour la terre. Elle n'est pas pour le ciel. Comme je vous ai dit hier, peut-être qu'il y en avait certains qui n'étaient pas là. Mais c'est pas grave, c'est pas un reproche. Hein. Quoique. Et nous sommes tellement, nous avons tellement de tendance, toujours en train de faire la charité. Seigneur, s'il te plaît, tu n'as pas... Encore, si on lui dit s'il te plaît, c'est déjà sympa. Seigneur, tu n'as pas 100 balles. Qu'est-ce que tu me demandes 100 balles? Qu'est-ce que tu me demandes 100 balles? Je t'ai tout donné. On va arrêter de vivre à dose homéopathique et par perfusion, là. Hé, hey, c'est bon, là. C'est incompréhensible. J'ai vécu comme ça. Hein. Je prêche un converti, là. J'ai vécu comme ça. C'est quoi? Les mendiants de Dieu, là. Nous sommes les hommes et les femmes les plus riches de ce côté-ci de l'éternité. À tous les niveaux. Je ne suis pas en train seulement de parler finances et prospérité. Hein. C'est pas... Mais nous sommes prospères à tous les niveaux. Parce que tout lui appartient et tout est à nous. Dans une alliance, hein, si David était venu voir Jonathan en disant « Il n'aurait pas demandé, prête-moi 30 000 euros. » Il aurait pris 30 000 euros. Ou il aurait dit « J'ai pas la procuration, tu signes le chèque et je ferai le reste. » Hé, vous pouvez comprendre ça. Qu'on n'a pas simplement toujours à demander, mais qu'on a à apprendre. Vous savez, je compare toujours à, si nous étions là, c'est pas un regret, hein, si par exemple il y avait un grand buffet là, préparé par un super grand traiteur, avec du tas machin, peut-être même des choses qu'on n'a encore jamais mangées, quoi. Et que nous soyons invités par les pasteurs. Merci beaucoup. Oh, c'est pas une prophétie. Hein. Et voilà, et vous rentrez dans la salle et vous voyez le buffet, vous dites, ah, qu'est-ce que c'est bien fait? Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Ah, oh, que c'est beau! Et puis, vous partez. Et puis, le dimanche d'après, quand vous retrouvez, vous dites, ouais, le buffet, c'était bien, mais qu'est-ce qu'on a? On l'a serré, hein? Il n'y avait rien à bouffer, hein? C'est pas qu'il n'y avait rien à bouffer, c'est que vous n'avez rien mangé. Parce que vous n'avez pas osé vous approcher. Et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Oh! Vous imaginez, là aussi, pardon, vous imaginez le prince Charles rentrant dans la salle du trône près de sa mère, la reine d'Angleterre, en train de faire une super lettre à M. Hollande. Et le prince Charles rentre dans la salle du trône, il voit sa mère là-bas au fond, et il commence, dès qu'il ouvre la porte, il se met à genoux et il glisse sur le parquet, là, en disant « Oh, mère de grâce, toi qui règnes sur l'Angleterre depuis tant d'années !» Et sa mère qui le regarde. « Eh bien, mon petit... » Fais attention à ton costume prince de Galles, tu vas le salir, donc debout. Puis, c'est pas la peine de me parler comme ça. Je suis ta mère, tu es mon fils. Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis-le franchement. Ne riez pas parce que, heureux ceux qui rient d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de se marrer. Parce que souvent, nous prions comme ça. Là, on est là, comme je disais hier aux jeunes. Carpette et chrétien, ça commence par la même lettre, mais ça n'a pas la même signification ni le même usage. Ah oui, on est toujours là en train de s'écraser. Seigneur, je suis un pécheur. Ah bon? Vous croyez que c'est une nouvelle pour lui? Oh, c'est pas un scoop là, il n'est pas en train de dire au fils, t'as vu? C'est un scoop là, je ne savais pas qu'il était pécheur lui. Et oh. On ne peut pas vivre autrement. Nous sommes des hommes et des femmes de l'Alliance. Je suis le plus riche de ce côté-ci de l'éternité. Je suis un fils d'Alliance. Le marchand de tapis ne peut pas venir me prendre. Nul ne les ravira de ma main. On est toujours en train de se demander si on ne va pas subir une attaque du diable. Oh, mais foutez-lui la paix un peu à celui-là. Comme disait Ken Wright, pauvre diable, on est toujours en train de lui mettre des responsabilités, j'en ai un paquet, mais on est toujours en train de lui dire des tas de choses. Mais ce n'est pas forcément sa faute, c'est la nôtre, parce qu'on ne veut pas prendre des promesses de Dieu au sérieux. Oui, mais c'est pas forcément pour moi, parce que je suis comme ça, parce que j'ai le nez entre deux oreilles, c'est peut-être pas juste. Alors, arrêtons avec ça. Vous savez que en agissant ainsi, on attriste le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. On n'est pas appelé à attrister le Saint-Esprit. On est appelé, je dirais, à le nourrir. Eh oui, Saint-Esprit, il vient. Pourquoi faire ? Il est là. Eh non, c'est vrai. Nous sommes des tabernacles ambulants. Là où je suis, le Saint-Esprit est. Mais ma responsabilité, c'est de ne pas l'attrister. Ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça que j'ai pas mal insisté ce week-end. Et je crois que c'est très important. Nous avons besoin d'être libérés de notre culture, quelle qu'elle soit, et en plus notre culture évangélique. Hein, nous, les charismatiques, charismaniaques et charistatiques. Hein, nous avons besoin d'être libérés de tout ça. Parce que j'ai pris conscience de ça il y a une dizaine d'années. Où un jour, je priais. Et ma prière était celle-ci, « Seigneur, casse mes lunettes. » Parce que je me suis rendu compte que, de par l'éducation que j'avais eue dans ma famille, etc., et puis quand j'ai été en pension, comme je vous ai dit, quand j'ai été mis à la porte du collège, je me suis retrouvé chez mon parrain et ma marraine qui étaient pasteurs, et chaque fois que je faisais une bêtise, je devais apprendre un chapitre de la Bible par cœur. Alors je ne sais pas pourquoi, j'en ai appris beaucoup. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que c'est une grâce si je suis là aujourd'hui. Ça aurait pu me dégoûter à tout jamais de la Bible. Et vous savez que j'ai souffert avec ça. Non pas d'apprendre les chapitres, mais quand j'étais plus jeune, j'allais dans un culte, etc. Le frère disait, nous allons lire. Pendant qu'il lisait, moi je récitais. Faire ce qu'on appelle un culte personnel, quand vous connaissez la Bible quasi par cœur, c'est pénible, hein. Parce que comment voulez-vous qu'il vous parle, quoi. Vous récitez, comme je peux vous réciter les fables de La Fontaine. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Pareil, de la même façon. Waouh. Et je suis, enfin, je ne vais pas être vous choquer. Je suis plus à ça après, je crois. Hein. J'ai demandé un jour à Dieu d'oublier sa parole. J'ai dit, je ne veux plus lire, enfin, réciter ta parole comme ça. Ce que je veux, c'est que tu changes mes lunettes. Que tu casses mes lunettes et que je puisse voir ta parole comme toi, tu l'as écrite. Qu'elle me soit révélée. Vous savez, j'ai fait 5 ans de théologie pendant 2 ans. J'ai eu un professeur extraordinaire dont je tairai le nom, mais qui est toujours extraordinaire. Et il nous parlait des prophètes dans l'Ancien Testament. Et dans tout ce qu'il disait, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est historique, ça c'est accompli, c'est historique. Dans la fin, j'ai fait le bilan. Genèse, enfin, il me restait que quelques livres. Les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques parce que ça m'arrangeait bien, et un peu d'Apocalypse. Et la couverture de ma Bible parce qu'elle était en cuir. Puisque tout le reste était déjà accompli. Donc ça me sert à quoi? Et dès que je lisais un texte, hop, je connectais à ce que j'avais appris, ce que j'avais entendu comme enseignement ou comme prédication. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, stop, je ne veux plus ça. Alors je me suis mis à relire la Bible. Et alors là, j'ai découvert des trucs. Maman. Waouh. C'était plus plat. C'était pas voir Tarlo morne plein. Non, non. Tout prenait du relief. Tout prenait du relief. Si un jour je reviens, je vous parlerai de ça, de la culture. Comment la culture peut nous influencer? Comment notre culture personnelle, comment notre culture évangélique peut nous influencer et comment elle peut nous paralyser après dans nos lectures? parce que dès qu'on va dire quelque chose de nouveau, on va dire oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le texte. Ça te dérange pas que je le voie autrement? Et encore récemment, pendant la période de Pâques, Dieu m'a conduit sur Jean 21, hein, quand Pierre, Jean et Marie de Magdala arrivent au tombeau. Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Je ne vous en parle pas, parce que comme ça, vous me réinviterez. non, plaisante. Voilà. En disant, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et là-dedans, j'ai découvert des tas de choses qui ont aussi rapport avec l'Alliance, qui ont aussi rapport avec qui nous sommes, avec tout ce que Jésus a réellement accompli. Vous êtes conscient que vous êtes des hommes et des femmes d'Alliance et que vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Ça, c'est dur, hein? Oh la vache! Il est grand temps qu'il arrête parce qu'il commence à délirer, machin. Vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Vous savez, j'ai fait une expérience extraordinaire l'été dernier. Je me suis fait rouler par quelqu'un. J'ai acheté quelque chose, un gros machin, très cher. Et je me suis fait rouler parce qu'en fait, c'est un bateau que j'ai acheté. Et 3 jours après la livraison, ce bateau a brûlé. J'avais mon fils, ma belle-fille et nos 2 petits-enfants dessus. Mais bon, personne n'a brûlé. Je ne sens pas le roussi, alors tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et là, je suis tombé sur un gars qui m'a vendu ce bateau, qui a un chantier, etc., sur un truand. Ça a été un bins. J'ai failli tout perdre. Mais bon, ce n'était pas le fait de perdre. Ce n'est pas mon problème. L'or et l'argent ne m'appartiennent pas et ça lui appartient. Donc, ce n'est pas mon problème, ça. Et avec Isabelle, quand on priait, on disait, Seigneur, tu feras justice. Et Dieu m'a conduit sur ce verset, dans Éphésiens, « Rendez gloire à Dieu pour toutes choses. » Attends, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que je dois te dire merci, que je dois te louer pour ça. Seigneur, je suis plus prêt à cet homme à lui faire l'imposition des pieds qu'à l'imposition des mains. Hein. Que ce soit bien clair. Et Dieu insistait en disant, non, non, remercie-moi parce que je suis souverain. Je suis aussi dans cette situation. Donc, tu peux me dire merci. Les premiers, c'était au forceps. Hein. Pour qu'ils sortent, ça n'a pas été évident. Puis j'ai compris que, ouais, la souveraineté de Dieu est réelle. Ce n'est pas un gadget. Et que Dieu est présent dans tout ce que l'on vit. Hein? David, dans le psaume 23, disait « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors c'est facile de le hein, le psaume 23, on le connaît par cœur. Et surtout le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais avant, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Et dans notre alliance avec Dieu, Dieu est souverain. Est-ce que je suis prêt à dire merci à Dieu pour les circonstances que je traverse? Je ne dis pas que les premiers vont sortir facilement. Hein. Je vous dis, ils sont sortis au forceps. Hein. Mais, il y a une bénédiction. C'est que si je commence à prendre cette position, je sais que ça ne plaît pas à l'autre. On s'en fout. On n'est pas là pour lui plaire. Et c'est comme si on passer à travers un obstacle. Et là, les choses se délient. C'est comme si quand vous montez un avion, quoi. Hein. Putain, il fait un temps terrible. Hier, je suis parti de Toulouse, il faisait un temps gris, machin. Hop, on a passé les nuages et le soleil. C'est pareil. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a des nuages? Alors commencez à louer le Seigneur. Ça va vous élever. Et là, vous allez voir le soleil de justice, le soleil de la grâce, le soleil de la miséricorde. Et les choses se dénouent. Les choses se dénouent spirituellement, les choses se dénouent. Et ce n'est pas Seigneur fait que. Seigneur, fais que. Hein? Parce qu'il y a tellement d'Indiens qui ont envahi les églises. Hein? La tribu des Yaka et la tribu des Faucons. Le problème, il y en a des vrais. Mais la tribu des Yaka, c'est impressionnant, quoi. Hein, Yaka, y a un problème, Yaka. Il y a Faucon. Ah, j'avais un paroissien qui était très fort pour ça. C'était Armand Nou et partez. Et je sais, si je sais qui je suis, pas ce que j'ai à faire, si je sais qui je suis, que je suis ce fils, cette fille de l'Alliance, que j'ai été adopté, c'est une adoption plénière. Hein? C'est hier que j'en ai parlé de ça? L'adoption plénière? Pas à vous, alors je vais le dire pour les jeunes. Quand Jean-Marc Potentier et son épouse ont adopté Tam Evan, un jeune qui avait 5 ans à l'époque, qui était vietnamien. Oui, vietnamien. Ils ont eu, quelque temps après, l'adoption plénière. C'est-à-dire que Tam Evan est né de M. et de Mme Potenti à Ho Chi Minh Ville. Nous sommes des hommes et des femmes de l'Alliance dans l'adoption plénière. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dont l'autre, il a... Arrêtons de dire toujours, il m'attaque, ceci, cela, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne dis pas qu'il ne peut pas nous attaquer. Mais si nous fermons toutes les portes, il ne rentrera pas. Hein. Ça m'en bien souvent, c'est comme les sous-marins belges, ça. Hein. Opération porte ouverte. Eh oui, des fois, si on coule, c'est parce qu'on a fait opération porte ouverte, hein, tout simplement. Mais si vous gardez l'étanchéité spirituelle de votre vie, il n'y a pas de souci. Parce que il y a une cicatrice. Jésus, et c'est ce que Jésus a fait quand il a apparu à ses disciples. À Thomas en particulier, il dit, allez, va, mets-y tes mains, tu en as tellement envie. Et il a cru. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Et si vous prenez cela au sérieux, vraiment sous le regard de Dieu, que vous dites, Seigneur, j'accepte réellement cette alliance. Je n'avais pas tout compris. Hein? La Sainte Cène, quand on vient prendre la Sainte Cène, en général, on arrive... On a la tête, on a l'impression que les gens s'avancent vers le monument aux morts. Je l'assure. J'ai fait le coup une fois dans mon église, quand j'étais pasteur, dans les églises réformées évangéliques. Le pasteur, lorsqu'il distribue la Sainte Cène, il doit donner un... Quand il donne le morceau de pain, il doit donner un verset biblique à chaque personne. Ça va intérêt à connaître votre Bible, hein, parce que si vous avez 200 personnes, vous êtes bon. Là. Ok. Et un jour, je les ai vus arriver, ces braves amis, mais ils avaient une tronche. Oh, pauvre de toi. Quand un peu, ils étaient, leur tête était tellement longue qu'ils risquaient de marcher sur leur menton. Ah, c'était pas possible. J'y ai pas cru, là. Je les ai vus. On va prendre le repas du Seigneur. Ok. Alors cette fois-là, c'est la foudre m'a pris. Je n'étais pas forcément inspiré. Hein. C'était plus la colère que l'inspiration. Alors je leur ai donné un morceau de pain, à chacun, comme je fais d'habitude. Mais au lieu de leur donner un verset biblique, j'étais là, je leur disais, mes condoléances. Mes condoléances. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme un tremblement de terre. J'ai mon vice-président de conseil qui est venu voir, il me dit, Jean, je crois que vous avez dépassé les bornes. Je le regardais le plus innocemment du monde, en disant, moi, vous me connaissez, je suis aussi innocent qu'un enfant qui vient de naître. Je n'ai pas de souci avec ça. Il m'a dit, quand même, dire ça. Mais je dis, mais Pierre, vous vous rendez compte, la joie que vous avez? Ah oui, mais elle est intérieure. Ben, je dis, purée, faites-la sortir, quoi. Quichez-vous un coup, quoi, mais... Pressez un peu, ça va sortir, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, votre truc, là. C'était le... On aurait dit qu'une veillée mortuaire, quoi. Alors, ça a tellement bousculé l'église que le dimanche d'après, la Sainte Cène était un peu différente. Et la dimanche d'après, on avait enlevé la pompe à cantique, c'est-à-dire l'harmonium, là, et on avait mis un synthétiseur et une guitare électrique. Et là, on a commencé à faire la fête. Je vous promets, c'est vrai. Je vous raconte pas des salades. Et ça a choqué. Mais des fois, il y a des tremblements de terre salutaires. Donc, quand vous prendrez la Sainte Cène, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est le repas de l'Alliance. Et non seulement le repas de l'Alliance verticale, mais le repas de l'Alliance horizontale. Vous êtes en alliance avec le Christ, individuellement, collectivement, en tant que corps, puisqu'il a dit « Ceci est mon corps ». Et c'est le corps de l'Église, hein, en Corinthiens 11. Mais je suis aussi en alliance avec toi. Je suis aussi en alliance avec toi. C'est-à-dire que je dois veiller les uns sur les autres. Josué, chapitre 3, la bataille de Jéricho. Dévoué par interdit. Là aussi, c'est mon imagination. Je pense que la bataille de Jéricho a eu lieu la veille de la Saint-Valentin. Puisqu'il y a Achan qui est allé prendre un manteau de chinéard, quelques bougies, etc. Je pense que la veille, le lendemain, il voulait faire un tête-à-tête et puis offrir des cadeaux à sa femme. Seulement, quand ils sont partis pour Haï, Josué a dit, on ne va pas y aller tous. Et il y a 35 personnes qui sont mortes. Et Josué a pris le sac et la cendre en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Hein, et là, il a fait la carpette. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Tu avais dit que... Et Dieu lui a dit, lève-toi. Et dégage le péché. Dégage le péché qui est dans le camp. Parce qu'il y en a un qui a péché. Et à cause d'un qui a péché, il y en a 35 qui sont morts et les autres qui ont été arrêtés. Vous prenez conscience de la responsabilité que nous avons les uns vis-à-vis des autres ? Dans ce contexte et dans cette réalité de l'Alliance, je suis responsable de l'autre. Je suis responsable pour moi-même et lorsque je fais une ânerie, pour ne pas dire autre chose, une sonnerie sans cédille, je peux engager tout le corps entier. Je peux engager tout le corps entier. Vous saisissez cela ? Notre responsabilité, elle est là. Parce que nous sommes aussi. Donc quand vous prendrez la Sainte Cène, vous penserez à cela. Je prends le repas de l'Alliance avec lui, mais je la prends avec les autres parce que je suis un alliance. C'est une alliance horizontale et une alliance verticale. Amen. Je vous invite à vous lever. Merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es notre partenaire. Parce que nous sommes en alliance avec toi. Parce que tu as fait alliance avec nous. Toi le plus riche et nous qui n'avions rien à donner. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné ton héritage pour que nous puissions conquérir le monde. Que nous puissions faire avancer ton gouvernement sur la terre. Tu as dit que nul ne nous ravira de ta main. Tu nous as exhortés à veiller les uns sur les autres, à nous supporter dans le sens de nous soutenir les uns les autres. Et Père, je prie vraiment au nom de Jésus que par la puissance de ton esprit, tout ce qui a pu être partagé ce week-end, ce qui a pu être partagé ce matin, ne vienne pas simplement s'arrêter à la tête en disant « ouais, c'était bien » ou « moins bien ». Mais que ces choses viennent s'inscrire dans le cœur. Je prie que tu viennes graver ces choses dans le cœur au nom de Jésus. Tu veux un peuple qui te loue. Souvent, tu nous as dit que le peuple te tournerait des lèvres, mais son cœur était éloigné de toi. Je prie pour que nos lèvres et notre cœur et nos lèvres soient vraiment en harmonie. Merci pour ces bien-aimés. Merci pour les jeunes, merci pour les moins jeunes. Merci pour qui ils sont. Étends ta main sur chacun d'entre eux. Étends ta main. Merci pour l'œuvre que tu as commencée à chacun d'entre eux. Merci parce que tu nous promets que cette œuvre, tu veux la rendre parfaite. Ouais. Je prie que tu renouvelles le zèle. Pas forcément le zèle d'aller parler de toi, mais seulement le zèle d'avoir, de vouloir cette intimité avec toi, de passer du temps avec toi et de pouvoir simplement incarner ce que l'on croit, ce que tu nous as donné. Étends ta main, Seigneur. Remplis, renouvelle. Quand tu fais le bilan, souvent, tu as l'impression que tu as raté plein de choses. Et Dieu te dit, ça, c'est un mensonge. Tu n'es jamais satisfaite. Tu fais simplement ce que Dieu te demande. Tu n'as pas à en faire plus, tu n'as pas à en faire moins. Et je peux te dire une chose, c'est que le Père se réjouit de qui tu es. Le Père se réjouit du temps que tu passes avec lui, même si tu dis, ouais, je passe pas assez de temps, nanani, nanana. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et tu as avec le Père des temps de qualité. Et sache que ça réjouit le Père. Sache que ça réjouit le Père. Alors, et tu fais les trois quarts de quasiment tout le temps ce que le Père te demande de faire. Alors on ne dit pas c'était bien ou c'était moins bien. Simplement tu dis j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Le reste c'est son problème. Ok. Amen.